Oxford.
Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.
Floxfort, en direct de la 39e édition du festival Entrevue à Belfort. Alors, troisième jour d'émission pour l'équipe de Floxfort. Premier jour pour moi, donc Caroline Châtelet. Et je rejoins Nicolas Bézard.
Bonsoir
Nicolas et Olivier Legras, réalisateur, sachant que Oiku nous rejoindra tout à l'heure pour le deuxième plateau. Et donc là, pour le premier plateau de cette soirée, nous recevons Ji Yiwang. Bonsoir Ji.
Hi, good evening.
Vous êtes accompagné de Lian Fan, puisque Ji Yiwang, vous êtes cinéaste et vous présentez un film dans la compétition dans les courts-métrages. Et vous êtes accompagné de Lian Fan, distributrice d'Etchi Film, avec laquelle on échangera un petit peu tout à l'heure, et Vincent Poli, qui est membre du comité de sélection du festival Entrevue et qui va assurer la traduction. Merci à lui. Alors, Ji, vous êtes cinéaste, donc vous êtes né en 1992 et vous avez grandi à Changsha, l'une des villes centrales de l'industrie cinématographique et télévisuelle chinoise. Après avoir étudié la production cinématographique et télévisuelle dans une université en Chine, vous vous êtes formé à la London Film School. En 2021, vous réalisez votre premier court-métrage, Some Manifestations of the South, dont on reparlera pendant l'émission. Vous êtes ici à Entrevue pour présenter Spring 23, votre deuxième court-métrage qui concourt donc dans la compétition internationale. À noter que ce court-métrage a remporté le Grand Prix au Festival d'Oberhausen déjà. Alors, première question, pour débuter, vous venez de présenter votre film cet après-midi. Comment la rencontre avec le public s'est-elle déroulée? Quelle a été la réception de votre film?
Well, the Q&A went pretty well. We had actually more audience than I expected. Because of the weather, I was expecting less audience. I thought it's going to be less than the first screening here. But actually, we had more. And I think they're asking really good questions. Those questions actually brings me some more answer than something I answered in the other festivals somewhere else. So I think here is I had a really good experience of the Q&A.
Alors, on a effectivement présenté le film il y a très peu de temps et la rencontre s'est très bien passée. Je pensais qu'on aurait moins de monde dans la salle à cause du climat et de la neige. Je pensais qu'on aurait moins de monde que lors de la première projection qui s'est tenue il y a quelques jours. Finalement, il y avait plus de monde, donc j'étais très content. Et le public a posé des très bonnes questions. Des questions qui m'ont même amené à trouver moi-même des réponses que je n'avais pas dites lors de d'autres rencontres avec le public dans d'autres festivals.
Alors, peut-être qu'on reviendra justement sur ces réponses que vous n'aviez pas évoquées jusqu'alors. Mais d'abord, pour présenter votre film, comme le raconte le synopsis, Spring 23 raconte l'histoire d'un jeune homme, Mao Sen, qui vient d'organiser les obsèques de ses parents et cherche à acquérir des feux d'artifice pour le festival du printemps 2023, cela alors que ces derniers sont interdits par les autorités. Et contre toute attente, en fait, ce n'est pas directement des parents morts dont parle votre film, mais de ce que cela va déclencher et faire surgir chez le personnage de Mao Sen. Soit une quête en moto pour dégoter les fameux feux d'artifice, puis le lieu où il pourra les allumer. C'est une sorte de road movie tranquille, où le personnage n'est pas en fuite, mais en quête d'un renouveau comme d'un possible retour vers l'enfance. Puisque c'est certes près de poubelles dans un quartier populaire qu'il fera brûler les feux d'artifice, mais là où juste avant lui, des enfants auront fait de même. C'est aussi un attachement aux traditions qu'aborde votre film, puisque c'est donc une tradition du nouvel an lunaire que d'allumer fusées et autres pétards, notamment pour éloigner les mauvais esprits. Et si votre film a un titre qui est simple et direct et assez laconique, c'est un titre qui ancre de fait l'action. Puisque au printemps 2023, les autorités chinoises ont interdit l'usage de feux d'artifice. Ce sont des restrictions qui sont fréquentes. Et cela afin d'éviter les incendies ou la pollution de l'air. Alors, à quel moment cette situation d'interdiction vous a-t-elle amené peut-être à travailler sur ce projet de film?
It's actually from a very early stage of my creation, because the first idea comes with 2 years ago, when I first saw a video online, when I was surfing TikTok videos, there was a video, but not in China, but in Vietnam. There was some guy who was playing fireworks, and then some police officer, they engaged. Back then, I thought this is like a very interesting scene to me and gave me some thought. And I just sent the video to my friends, to the people I was working with. I was like, we are going to make something about this. I don't know when and I don't know what, but for sure, in some day, we're going to make it. And I still don't have the story, but maybe we're going to have it later. And back then, it was really different time for us because it was 2 years ago, actually nearly 3 years ago. So we still having many plans of the what kind of film we're going to do. But during that 2 years, 3 years between that period and the making of this film, we have encountered many failures on filmmaking because of the situation we faced in China. So I had some new thoughts. Then at the end of 2022, when our authorities just lifted all the restrictions, all of a sudden there comes this story in my mind. So I told them, okay, this is the time we're going to make it, and I think it's now or never.
Alors cette histoire d'interdiction des feux d'artifice, elle est arrivée très tôt dans mon processus de création. C'était en fait à peu près il y a 2 ans, je regardais des vidéos sur TikTok et j'ai vu une vidéo qui a retenu mon attention. Alors la scène ne se passait pas en Chine, elle se passait au Vietnam, mais on voyait quelqu'un qui utilisait des feux d'artifice et la police intervenait. Alors à ce moment-là, je me dis que c'est très intéressant, j'envoie la vidéo à mes amis et je leur dis on va faire quelque chose avec ça. Je savais pas quand est-ce qu'on allait le faire, je savais pas ce qu'on allait faire, mais en tout cas je savais qu'un jour, j'utiliserais cette vidéo pour créer quelque chose. J'avais même pas l'histoire en fait. Il faut dire qu'à l'époque, c'était déjà il y a presque 3 ans, une autre époque pour nous. On avait beaucoup de nombreux projets de films, mais en fait, on a rencontré beaucoup de problèmes dans ces projets. Et au moment où cette vidéo apparaît, ça me donne une nouvelle idée et je me dis que c'est maintenant qu'il faut le faire, surtout au moment où la police chinoise a de son côté retiré les interdictions sur les feux d'artifice, et c'est là qu'on l'a fait, et c'était maintenant ou jamais.
Alors, vous dites que vous avez rencontré beaucoup de problèmes sur d'autres projets de films, c'est-à-dire?
Like, for example, my first short film, it was some manifestation of the South. You know, at 2021, we went into some good festivals, and at that time, we think that should be a beginning of our good career, and we're expecting to get some new chance to make our new short films or even something more. But in the next coming 2 years, every time when we want to do something, there's going to be some problems shows up. For example, during that time, you know, China has the zero COVID policy. So normally you would have the life just as normal, but as soon as there's a case of COVID reported, the city or the area is going to have the travel restriction or isolation, these sort of things. So during that 2 years, for us to have a self-produced film is really hard because first, we don't have permission. And second, if you plan to do something, you don't know what's going to happen. You don't know if there's going to be any restrictions on the time when you originally scheduled. So there was 2 times or even I think maybe 3 times we were about to start filming and then the restriction or the isolation comes and we have to stop everything. And sometimes if you stopped, it's never going to happen again. So we actually gave up a lot of plans.
Alors à cette époque, je venais de réaliser mon premier film, Some Manifestation of the Sound.
South.
South. Et le film a été envoyé dans des festivals, il a été sélectionné, des bons festivals, on était très contents. C'était pour moi un peu le début d'une carrière qui me semblait prometteuse. Je voulais faire de nouveaux courts-métrages. Et puis ensuite, avec les lois sur le Covid en Chine, c'est devenu très compliqué puisque, comme vous le savez, en Chine, il y avait cette politique du zéro Covid. Donc, dès qu'un cas de Covid était repéré dans une ville, cette ville était fermée, les gens étaient isolés. Et donc, nous, on essayait de faire des films autoproduits. Donc déjà, on ne savait pas si on aurait les autorisations requises. Et puis, en fait, on ne savait jamais ce qui pouvait se passer, des restrictions qui allaient apparaître et bloquer le tournage. Et donc, au final, il y a deux ou trois fois où on était sur le point de tourner, où on commençait à tourner. Et puis, du jour au lendemain, on a dû tout arrêter. Et on savait que lorsqu'un film s'arrêtait, on ne pourrait jamais le continuer. Donc, c'était en fait la mort du projet à chaque fois.
Mais alors, vous évoquez justement les restrictions liées au Covid. C'est vrai que le Covid est présent dans Spring 23, puisqu'on l'entend brièvement lors d'une séquence où Mao Sun écoute la TV en fond sonore et où il est évoqué donc la période de fin de restriction de 2023. Et c'est vrai que ça chemine un petit peu en permanence dans le film, comme si au final l'interdiction des feux d'artifice était l'interdiction qui faisait écran à l'interdiction beaucoup plus générale, qui sont toutes celles qu'emportait avec elles le Covid. Comme si c'était pour vous le moyen d'aborder les restrictions de façon beaucoup plus générale touchant la Chine à ce moment-là.
Well, I think I need to answer it in two parts. First, talking about the restrictions related to COVID. At the end of 2022, all the restriction has been lifted. So that's kind of like the end of an era for us. And talking about the fireworks, I think ever since when I was in primary school, or even earlier, the restrictions on fireworks, it was always there. It has been a long time and... But in different years, it was not practically the same. So you could say during the COVID, it was practicing more seriously those restrictions towards the fireworks. But for me, in this film, I think it's more like a symbolic stuff. I was using it as a symbol of the our. Let me find the word. The parental, the basic parental truth of our authorities, because, like I said in some other place, both control on the COVID and the fireworks, they're all showing some parental stuff of our authorities, and it has the good part and the bad part. It protected us in some way, but also has hurt us in some way. So for me, my feeling was very complicated, and I think I just want to show this complication. Feel into the audience, and if the audience could feel my feel, I couldn't find a proper word. Sorry.
Alors, je pense que je dois répondre un peu en deux fois à votre question. Je voudrais d'abord parler des restrictions. Alors, effectivement, à la fin de l'année 2022, toutes ces restrictions, toutes ces lois sur le Covid ont été levés. Pour nous, c'était la fin d'une ère. Mais par contre, ce ban sur les feux d'artifice, même quand j'étais enfant, ça a toujours été présent, ça a toujours été là, même si, selon les années, c'était plus ou moins pratiqué. Et c'est vrai qu'il faut dire que pendant la période du Covid, les autorités ont été beaucoup plus sérieuses à ce niveau-là. Mais dans mon film, c'est avant tout un biais symbolique pour parler de façon plus large de l'autorité des autorités chinoises, qui a toujours eu un caractère presque parental, Ça s'est vu particulièrement au moment de la période du Covid. Et ce caractère, à la fois autoritaire et parental, il a en lui des éléments qui sont bons pour nous et d'autres qui sont mauvais. C'est des lois qui nous ont protégés et qui nous ont en même temps fait beaucoup de mal. J'avais en tout cas des sentiments assez ambivalents par rapport à tout ça. C'était très, très compliqué dans ma tête. Et mon but, c'était de montrer cette complexité au public et qu'ils puissent comprendre à quel point on était nous-mêmes en fait un peu désarçonnés par ces lois.
Alors, The Yiwang, vous parlez de complexité, mais j'ai l'impression que la ligne dramaturgique de votre film, elle est assez claire, assez limpide. Et d'ailleurs, moi, elle me rappelle un petit peu le néo-réalisme italien des films de Vittorio De Sica, comme Le voleur de bicyclette, où il y avait une quête comme ça de quelque chose qui était assez clairement présenté. Et je me demande si pour vous, dans votre cinéma, ce qui est le plus important, c'est davantage les présences, les atmosphères, les silences, tout ce qui est plutôt suggéré par les ellipses, plutôt que l'histoire en elle-même.
Well, my background is first I started my career as a cinematographer. Then I was trained as a filmmaker at LFS. So for me, the image itself played a very important role in my creating process. But like nowadays, I'm kind of shifting my role from cinematographer to both director and cinematographer. So I'm trying to find the balance between the visual storytelling and the story itself. Like talking about this film, I think the most important thing is first I find the necessity of telling this story. And the most important thing is to tell this story. Then I find the way of telling this story, which is I find the right image, I find the right way of the narrative, visual narrative storytelling. So, yeah, I wish this answered this question.
Alors, pour revenir un peu sur mon propre parcours, j'ai d'abord été chef opérateur dans le cinéma. Puis, je me suis formé à la réalisation. Et dans mon travail de réalisateur, l'image, en fait, a toujours eu une part très importante au moment du processus même d'écriture du film. Actuellement, j'essaye de faire les deux, en fait, d'être à la fois quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'image, un chef opérateur, et en même temps, un réalisateur. J'essaie de trouver le point d'équilibre entre une narration par l'image et une narration par le récit lui-même, par le scénario lui-même. Donc, par rapport à ce film Spring 23, j'ai d'abord dû trouver en fait la nécessité pour moi de raconter cette histoire. Puis j'ai ensuite réfléchi à la bonne façon visuelle de raconter cette histoire. J'espère que ça répond à votre question.
Alors oui, ça répond à ma question. Et alors vous avez dit que vous avez aussi une activité de chef opérateur. Et la photographie du film est effectivement extrêmement soignée, que ce soit dans la composition des plans, où on remarque un travail sur la fixité, sur la frontalité, mais aussi sur le grain de l'image. Et vous avez utilisé la pellicule. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix et est-ce qu'il s'est imposé dès le départ, en fait, ce choix, pour vous ?
No, actually, this film is made with digital.
Ah.
Yeah. So I fooled you.
ce film est en fait réalisé en numérique, donc je vous ai bien trompé.
Okay, so this question actually we answered with the Q&A section. So when I was in the film school, I was trained mostly with the film. I liked the feeling of the film. I liked the look of the film itself. But after I graduated, since I now mainly doing my self-produced films, you know, film on film is incredibly expensive and I can't afford it. But I'm still trying to simulate the look of the film. There's two reasons. Particularly in this film, first because film is kind of the classic look, and it has something to do with this, in general, overall memorial feeling of this film. So I think it suits the story, suits the way of the how I tell this story. And second, I think in this way I could more efficiently drag my audience into this story, just make them has the same feeling of watching some classic films. So this is why I choose to simulate the film look. And the other thing I mentioned during the Q&A is this film, I shoot it on a very compact mirrorless camera, which really gave us the freedom of trying different ways to film things without people really noticing us. So this actually, I think, in general, is kind of like what those filmmakers did during the French New Wave movement. They're trying to use smaller cameras to make the filmmaking more freely. And so in this way, even we are using a digital camera, we're using a very okay, never mind. We're using a digital mirrorless camera, but I think we're with the same spirit of the Super 16 cameras.
Donc, comme je vous disais, j'ai tourné le film en numérique, donc je vous ai piégé. Je pense que, en fait, quand j'ai étudié, j'ai été formé à travailler avec la pellicule, ce qui était très bien. Moi, je trouvais ça magnifique. Mais une fois que j'ai eu mon diplôme et que j'ai commencé à autoproduire mes films, bah, il s'est avéré que faire des films en pellicule, ça coûte beaucoup trop cher. Donc j'ai voulu simuler cet effet de pellicule pour deux raisons. C'est d'abord parce que la pellicule renvoie pour moi un peu au cinéma classique et ça donne un sentiment de réalité à mon histoire. Ça me semblait être vraiment le look qui convenait à cette histoire. Et puis ça me permet aussi un peu de piéger l'audience. Ils ont un peu le public, pardon. Ils ont l'impression de regarder un film classique. On a tourné le film avec une caméra très compacte, assez petite, ce qui nous permettait d'être très discrets. Les gens ne nous remarquaient pas. Je crois que d'une certaine façon, ça renvoie presque à l'idée de la nouvelle vague française et une idée de liberté. Donc effectivement, on a tourné en digital, mais avec un esprit pellicule.
En tous les cas, c'est un film qui est extrêmement tenu formellement, tenu et maîtrisé. Et c'est un film aussi qui, même dans son écriture, a cette patte-là, puisqu'il y a à la fois une unité de temps, puisque l'action, elle se déroule possiblement en une seule journée, et une unité d'action, car de l'entreprise de pompe funèbre dans laquelle le personnage se trouve dans la première séquence, jusqu'à l'allumage des feux d'artifice dans la dernière séquence, tout tend vers l'objectif d'acquérir et d'allumer ces fameux feux d'artifice. Qu'est-ce que ce choix d'unité de temps et d'action vous permettait ?
Because I would like to have the audience be with my character, be with my protagonist, to understand what's his choice, what he concerns. And I'm not that kind of the creators that really likes a lot of dialogues. So in terms of creating, there's always the choice of behavior instead of the dialogues and the conversation. In terms of that, I think the best way to keep the audience and the character together is just make them have the same trip. So that's why I made this choice.
Je crois que le but pour moi était que le public se sente vraiment aux côtés de ce personnage, qu'il suive ses choix, qu'il soit presque d'accord avec ses choix. Je dois dire que je ne suis pas un grand fan des dialogues au cinéma. J'en écris assez peu. Je préfère qu'on suive le comportement de mes personnages plutôt que tout le récit passe par les dialogues.
Alors là, je voudrais évoquer un petit peu les liens entre ce deuxième long métrage et votre premier, Some Manifestation of the South, puisque dans ces deux courts métrages, on suit à chaque fois un homme assez jeune, solitaire, qui est plutôt impassible, en tous les cas peu bavard, et qui poursuit un but obstiné, puisque dans votre deuxième film, même si c'est la mission dont Mao Sen se charge lui-même, décide lui-même de se charger, mais dans le premier film, c'est l'emploi qu'occupe ce jeune homme, qui est donc d'aller s'occuper de tombes de personnes qu'il ne connaît pas, mais il est rémunéré pour aller s'occuper de tombes et pour aller célébrer ces personnes, notamment au moment de la fête des morts, de Qingming. Donc il y a vraiment quelque chose, une sorte d'omniprésence de la mort. Ces deux films sont traversés par la question de la disparition. Qu'est-ce que ça raconte aussi, vous, de votre travail et de votre recherche personnelle ?
No, thank you for asking this. It's a very interesting question to me because all these two short films were shot in my hometown, but actually I never really lived there. I was born there, but then when I was very young, when I was very in the primary school, we moved to the province capital, and then I only visit my hometown when it's during the Qingming Festival. So for me, the link between me and my hometown, it was naturally with death. And the second thing is, the only memories of my childhood in my hometown also always apply with death, because I think the people of my hometown, their thoughts on death is different comparing to the other people. For example, the only memory I had about the house that we had in my hometown is there's countless tombs and coffins around us. The tombs, these cemeteries are some of the owners of the cemeteries we know, some of them we don't know, and we are playing inside that place. And these coffins, they are prepared by the elders, because they always have their coffins prepared before, way before their death. So it's kind of giving me the different feeling of death itself. And talking about why we have this young people who's always want to seek a solution or trying to find something in my film, I think these two protagonists, actually they're sharing the same name in different films, but these two protagonists, I always thought it is some kind of the other version of me, because as I said, I never really lived in my hometown, but I was wondering if I have lived in my hometown, if I live there, if I'm living there, if I am that guy, what's my choice and what's going to be my adventure?
Alors, merci pour cette question qui est très intéressante. En fait, les films se passent dans ma ville d'origine, mais en vérité, cette ville, je n'y ai jamais vraiment vécu. En fait, quand j'étais à l'école primaire, ma famille a déménagé vers la capitale de la province, et les seuls retours que j'effectuais vers cette ville, la ville de mes ancêtres, c'est au moment de Qingming, donc la fête des morts en Chine. Et donc très tôt, j'ai associé ce lieu à la mort. Et mes seuls souvenirs d'enfance sont liés à la mort. Et je pense même que les gens de cette ville envisagent la mort d'une façon assez différente. Moi, quand je repense à mon enfance, je me rappelle de tombes, de cercueils. On allait souvent jouer dans le cimetière. On connaissait les gens qui possédaient le cimetière, mais pas tous. En tout cas, on allait jouer là-dedans et on voyait les aînés du village qui préparaient déjà leur cercueil bien avant leur mort c'est vraiment une tradition importante. Enfin, il fallait le préparer très tôt. Et donc, je pense que mon rapport à la mort est aussi assez particulier. Et par rapport aux deux personnages qui sont donc les personnages principaux de mes films, deux personnages qui semblent obsédés par trouver la solution à un problème, des personnages qui par ailleurs portent le même nom, je les considère un peu comme une autre version de moi-même. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai jamais vraiment vécu là-bas, mais si j'étais resté là-bas, si j'avais dû vivre dans cette ville, peut-être serais-je devenu le personnage que vous avez vu dans le film.
Et alors, personnage obsédé, mais personnage obstiné aussi, puisque au final, ces deux personnages sont vraiment dans la dans l'obstination et dans la perpétuation de traditions. Même si, je le redis, dans votre premier court-métrage, l'un, c'est aussi quelque chose qui lui permet de survivre. Enfin, c'est donc son métier. Je reviens à un autre point, en fait, qui relie vos deux films, et là, pour le coup, qui est plutôt vraiment une question formelle. Il y a deux éléments qui reviennent dans vos deux courts-métrages. Il y a à chaque fois un travelling circulaire qui va tourner justement autour du personnage central et qui nous permet peut-être pas tant de découvrir son environnement que de nous amener à nous concentrer aussi sur ses émotions possibles et sur ce qu'il traverse. Et il y a un autre moment aussi, comme ça, très formel, qui revient, qui est un écran noir assez long, qui arrive plutôt vers la fin de chaque film, qui marque une sorte de césure, comme une sorte de suspension avant un ultime moment de recueillement et d'élévation finale. Est-ce que vous avez vraiment eu recours à ces deux choix formels de façon volontaire, ou c'est une sorte de retour du refoulé dans votre deuxième film ?
It was related in some content, but not exactly the same. Talking about the traveling, I think that applies the same. They're looking for some solutions, just like I said in the last question. And talking about the black screen, that's something different. Well, there is something in common, which is after the black screen, it's always the scene where we only concentrate on this character, his inner self. It's really about this character, himself, instead of the connection between him and the other person. The reason in this film, in the Spring 23, why the black scene is so long is because first I want to play some games with the audience, because I thought the audience, they will maybe assume there's going to be some technical problems of the projecting, so there will be kind of in a uncertain, maybe not panic, but sure for uncertain. So that has some emotional link between the audience and my protagonist, because my protagonist in that scene, he has some uncertain feeling of what he's going to do and what he's going to face after he's doing this.
Effectivement, il y a des liens. J'utilise pas forcément, j'avais pas forcément l'idée de faire exactement pareil, mais au moment de ces travelling dont vous parlez, on a des personnages qui cherchent une solution, qui sont vraiment à un point d'obstination assez haut. Mais pour revenir sur cet écran noir que l'on voit à la fin de Spring 23, c'est effectivement un écran noir que j'utilise juste avant une scène où l'on va se concentrer sur l'être intérieur du personnage et non pas sur sa connexion avec ceux qui l'entourent. Là, vraiment, on va se retrouver presque seul avec ce personnage qui lui-même est déjà isolé. Et la raison qui fait que cet écran noir dans Spring 23 est si long, c'est que j'avais un peu envie de jouer un jeu avec les spectateurs. J'avais envie que les spectateurs se demandent s'il n'y a pas un problème technique lors de la projection. Non pas créer de la panique chez eux, mais en tout cas créer une sorte d'incertitude. Et j'ai l'impression que cette incertitude, on peut la relier émotionnellement à celle que vit à ce moment du film le protagoniste, qui lui aussi est à ce moment-là plein d'incertitudes.
Merci. Alors, on va poser une dernière question, cette fois à Liliane Fan, qui est la distributrice avec laquelle vous travaillez. Et ensuite, nous céderons la place au deuxième plateau. Donc, Liliane, vous travaillez pour Etche Productions, qui est donc une boîte de production française. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que vous vous êtes rencontrée avec Ji Wang et comment est-ce que aussi le compagnonnage s'est mis en place avec lui autour de son travail?
Alors, je l'ai rencontré, enfin, j'ai vu le film, en fait, c'est au début de l'année à Clermont-Ferrand.
Et Festival du court-métrage.
Exactement, ouais. Et du coup, je l'ai vu pour la première fois, le film, parce qu'il y a mon prod Emmanuel Chaumet. Et mon prod Emmanuel Chaumet, en fait, il a vu ce film avant moi au festival, et puis il m'a envoyé un texto avant que j'arrive à Clermont-Ferrand pour me dire que voilà, ce film est très bien, et il m'a demandé d'aller voir. Du coup, je suis partie voir. Effectivement, le film est très très bien. Non, parce qu'il est très singulier, en fait, dans sa proposition de la mise en scène, et aussi au niveau de l'histoire, il y a une certaine légèreté qu'on trouve très rarement dans les autres courts-métrages chinois qui parlent souvent du même sujet, des sujets sociaux assez importants, mais souvent ils sont très tristes. Mais dans ce film-là, il y a une certaine mélancolie et aussi la légèreté que j'ai trouvé c'est très bien. Voilà.
Et il y a une poésie aussi.
Il y a une poésie,
si
ouais.
Je peux me permettre, il y a une poésie qu'on retrouve chez beaucoup de membres de cette jeune génération de cinéastes chinois.
Ouais.
On dit que c'est la septième, je sais pas, j'ai arrêté de compter personnellement, auquel Jiwei Wang fait partie évidemment, au même titre que des gens comme Bigan, comme le regretté Ubo, comme Gu Xiaogang, qui est le réalisateur de Séjour dans les monts Fushun, qui eux aussi apportent parfois ce regard très poétique qui change peut-être de l'analyse purement sociologique d'un pays qui est en mutation. Oui. Et je voulais savoir si, par exemple, pour vous qui connaissez bien le cinéma chinois, vous êtes consciente comme ça de l'existence d'une sorte de communauté de gestes autour de tous ces cinéastes qui regardent leur pays, alors avec évidemment leur propre singularité, mais avec toujours cette forme de poésie et de mélancolie dont vous aviez parlé.
Oui, oui. Et surtout chez les jeunes cinéastes qui sont comme Zhi Yi ou les autres cinéastes chinois que j'ai rencontrés à Paris ou pendant les autres festivals, je trouve qu'ils cherchent vraiment leur propre langage pour parler de ces sujets assez communs qu'on rencontre tous en Chine. Et on essaie de trouver, ils essayent en fait de trouver vraiment leur propre mise en scène et de... Voilà, de raconter ces histoires de différentes manières. Et voilà, c'est... Ouais.
Merci à vous. On va donc se laisser sur ces mots, Liliane Fan. Donc, merci à vous, Ji Wang, d'être venu nous parler de votre film. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour la compétition. Merci également à vous, Vincent Poli, pour cette traduction. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec le deuxième plateau. Et c'est donc avec le cinéaste suisse Ramon Turcher, si je ne m'abuse.
Exactement.
Fluxfort. Mécanisme velouté.
Mixage fusionnel.